Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, le magazine avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et avec cet épisode, on va lancer une nouvelle série qui s'appelle « Et si c'était vous ?» Et vous allez voir, c'est très intéressant. J'accueille, j'ai le plaisir de retrouver Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco chez BlackRock. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent.
D'ailleurs, vous avez vu, on n'est pas dans le studio, hein, on est dans la bibliothèque du studio. Et justement, je retrouve Youssef qui va nous parler de son expérience d'investisseur. Bonjour Youssef.
Bonjour Laurent.
Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Bien sûr. Donc, je m'appelle Youssef, comme tu viens de le dire. Et puis, j'ai 34 ans, j'ai sous-pompier. J'ai un enfant.
D'accord.
Et je suis depuis un petit investisseur à ma hauteur depuis maintenant 2015.
Donc. Investisseur depuis 2015. Justement, qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce qu'on dit souvent, voilà, notamment les jeunes, 34 ans, t'es jeune encore, on se dit, bon, on épargne un petit peu. Et puis, dès qu'il faut passer à l'investissement, souvent ça coince, on trouve que c'est compliqué, qu'on n'a pas les clés pour se lancer. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, de franchir le pas?
Alors moi, c'est deux choses. La première chose, c'était une discussion avec un ami.
Oui.
J'ai eu aussi un reportage que j'avais vu à la télé et un livre. Donc en fait, finalement, c'est trois choses.
Oui.
Mais vraiment, le déclic, ça a été le reportage et le livre.
Il parlait de quoi, ce reportage?
Alors ce reportage, il mettait l'accent sur les retraites.
Dans le futur,
ouais. Dans le futur. Sauf qu'il y avait un chiffre important. Ce chiffre, c'était le fait qu'il y ait quatre actuels. Enfin, à l'époque, il y avait quatre
actifs, c'est ça, voilà, qui cotisaient pour un retraité.
Pour un retraité. Ouais. Et puis, il se projetait dans le futur en se disant qu'il y aurait peut-être deux actifs pour un retraité.
Ouais.
Donc, je me suis posé la question, est-ce que je ne ferais pas partie de ces gens-là?
Est-ce que ça n'a pas coincé pour la retraite?
Pour la retraite. Et quelles sont les solutions qui s'apporteraient à ce problème?
Ouais.
Et donc j'ai vu, enfin en parlant avec quelques amis, en me renseignant de mon côté sur internet et autres,
t'as franchi le pas?
Voilà, j'ai franchi le pas en achetant des actions.
Et le titre de ce livre, c'était quoi? Ça fait un intérêt.
Alors c'est un livre de Robert Kiyosaki. Ouais. C'est Père riche, père pauvre.
D'accord.
Voilà, je pense que dans le monde de l'investissement, il y a plein qui le connaissent, ce livre-là. Un livre formateur et qui réveille les consciences.
Bon, Charlotte, voilà, la retraite, c'est normal. C'est en tout cas, Youssef, dès la trentaine, il s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc qui coince. Bon réflexe pour commencer à investir.
Je pense que c'est bien, effectivement, de se projeter, même quand on est jeune, et de penser, en fait, à son soi futur. Tu l'évoquais, il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui sur l'avenir des retraites. Ouais. Et c'est très bien de pouvoir peut-être prendre les choses en main très tôt. Plus tu as de temps devant toi, plus tu vas pouvoir également prendre du risque et pouvoir préparer et faire fructifier ton capital. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge pour commencer à investir pour sa retraite. Il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui s'ouvrent aux jeunes investisseurs, on va dire, comme le PER notamment, qui est un très bon outil pour pouvoir préparer sa retraite.
Bon, une fois que le déclic est là, c'est pas le tout. Il faut commencer à investir. J'imagine que tu avais de l'épargne de précaution déjà. Comment tu as appris? Comment tu t'es lancé? Et puis surtout, parce que tu es dans un métier à risque, ça m'intéresse, comment tu as considéré le risque que représente l'investissement aussi?
Alors, comment j'ai commencé à investir? Déjà par les livres, certains livres qui m'ont, comme celui que je viens de citer tout à l'heure, par la discussion avec des collègues, parce que je suis dans un milieu où effectivement c'est un peu fermé, mais les pompiers anticipent pas mal de choses.
Oui.
C'est un peu, on va dire...
Il faut prévoir son après-carrière, en fait.
C'est ça, exactement. Oui. Voilà, on anticipe, comme pour un incendie, on va anticiper les actions qui vont être mises en place pour pouvoir réussir l'incendie.
La mission, quoi,
mission,
en fait.
Au meilleur. Et donc, du coup, j'ai été contacté par un collègue, en parlant comme ça à table, par un collègue qui, lui, avait quelqu'un qui était dans ce secteur-là.
D'accord.
Donc, qui était conseiller en patrimoine.
Oui.
Donc, en échangeant avec lui, il m'a donné plusieurs informations sur comment je pouvais épargner efficacement. Parce qu'à l'époque, donc, moi, ce que je connaissais, c'était les livrets. Livret A...
L'épargne réglementée, quoi.
Voilà, exactement.
Sûr, mais avec un rendement qui n'est pas toujours
forcément intéressant. C'est ça, exactement. Sur du long terme, quand on voit l'inflation, ce type de choses qui font que l'épargne, en fait, elle n'est pas
elle est plus rentable.
Elle est plus rentable. Les 3% que rapporte le livret A ne sont pas, sur la durée, quelque chose qui va me permettre de vivre sereinement plus tard. Donc, je me suis dit, je vais pas être pas écarter ça totalement, parce que c'est important, mais le mettre de côté et voir ce qu'il pourrait avoir d'autre plus rentable. Et donc, on m'a parlé des actions, on m'a parlé de SCPI, voilà, de plusieurs fonds, de plusieurs fonds d'investissement pour dynamiser mon épargne. Et de là, je me suis pris un peu de passion.
C'était parti, quoi.
Voilà, j'ai éparpillé.
Bon, il a tous les bons réflexes, Youssef, hein. Pas facile à prendre en défaut, hein.
Alors, je trouve qu'il a vraiment mis en place une stratégie intéressante. La première étape, effectivement, on va dire le premier étage de la fusée, c'est déjà de se constituer cette épargne de précaution. Mm. C'est très important parce que c'est ce matelas de sécurité qui va te permettre de faire face un peu aux aléas de la vie. Je sais pas, la voiture qui tombe en panne, les grosses réparations. Donc, c'est bien que tu aies cette épargne qui soit disponible facilement et rapidement. Donc, tu l'as cité sur un livret A, c'est garanti en capital. Donc, il n'y a pas de risque de perte en capital. Et comme tu le disais, c'est quelque chose qui rapporte 3%. Là où je trouve que son réflexe est intéressant, c'est de se questionner sur l'inflation. Oui. Cette inflation, c'est vraiment l'ennemi invisible de notre épargne. Peu de gens le savent, mais ça va avoir un impact très fort en fait, sur le long terme. Quand on regarde un petit peu la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation sur les 25 dernières années, donc depuis les années 2000, c'est quand même complètement significatif puisqu'on a divisé notre pouvoir d'achat par deux, alors même que l'inflation était dans des niveaux relativement raisonnables. Aujourd'hui, en France, on parle quand même de 5-6% d'inflation annuelle.
C'est énorme.
Donc rapporté au rendement du livret A, ça pose question. On se dit que ce livret A, il va te permettre de préserver plus ou moins ton pouvoir d'achat. Mais si tu as vraiment des objectifs d'investissement à long terme, peut-être qu'il y a une question à se poser. Et cette question, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon restant à vivre ? Donc c'est cette somme qui est disponible sur ton compte chaque mois une fois que tu as payé les charges récurrentes, le loyer,
les loisirs aussi.
Les courses et loisirs.
C'est super important.
Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à faire pour placer cet argent sur quelque chose d'un peu plus dynamique, comme tu disais, et avec un peu plus de risque, bien sûr, mais essayer d'aller chercher ce rendement potentiellement plus important.
Bon, Youssef, il a commencé avec les actions, c'est ce que tu nous as dit.
C'est ça.
On est dans 100% ETF, forcément. Alors, je te pose la question, est-ce que tu connaissais les ETF à l'époque ? On te les a proposés ou est-ce que tu connaissais ?
Alors, les ETF, je ne les connaissais pas. Oui. Je ne les connaissais pas à l'époque. Je me suis renseigné sur les différents fonds qui pouvaient battre le marché, entre guillemets. Les ETF se sont présentés sur... Quand on fait des recherches un peu sur Internet, on va dire que l'algorithme commence à comprendre sur quel secteur on y va. Et tout de suite, il y a les ETF qui sont apparus. Donc, je me suis renseigné sur les différents ETF qu'il pouvait y avoir, dont ceux que j'ai sur des comptes titres.
Oui.
Parce que du coup, j'ai un PEA donc, chez Boursorama et compte titres. Donc, j'investis sur compte titres avec des ETF et sur le PEA, c'est en action, mais uniquement européenne. Parce qu'on ne peut pas investir sur le monde, mais européenne. Déjà ça permet d'avoir une bonne rentabilité. Oui. D'avoir une bonne rentabilité.
Question aussi, puisque tu es jeune, est-ce que tu as cédé au charme des crypto-monnaies ?
Alors, ben, comme tu le dis, effectivement, j'ai cédé à... On peut pas y échapper. C'est vraiment un phénomène qui touche une bonne partie des jeunes, jeunes de tout secteur qui n'a pas entendu parler de la crypto-monnaie.
Du Bitcoin.
Qui
bat des records.
Voilà. Enfin, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et ce serait dommage, je pense, avec l'engouement que ça a, de se priver de la vague, de ne pas surfer sur la vague.
Sur quelle fraction de ton portefeuille, si tu peux nous le dire ?
Alors, les crypto-monnaies, en sachant que c'est quelque chose de très volatile, je n'ai pas mis énormément d'argent dessus. Pour vous dire une bagatelle, c'est que je mets de l'ordre de 50 euros à peu près tous les mois sur les crypto-monnaies. Pour... Je me dis que c'est de l'investissement, peut-être à perte. Je me dis que plus tard, ça va peut-être gonfler et que ça va me permettre d'avoir une grosse somme. Donc, c'est pour moi, c'est de l'investissement sur lequel je ne compte pas. On va dire que les 50 euros. Et si un jour, ça marche très bien, bah, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, j'aurais tenté. Je serais peut-être heureux ou pas.
Bon, il y a plein de bons réflexes là-dedans, hein, parce que moi, j'ai pêle-mêle retenu le fait d'investir régulièrement des petites sommes, hein, ça on aime. Il y a la mise en place de versements programmés, il y a aussi une bonne appréhension du risque, hein, sur la volatilité des cryptos, et en même temps, on peut trouver ça quelque part paradoxal qu'il ait été finalement plus enclin à commencer par les cryptos, qui sont quand même par nature plus risqués que par un ETF.
Effectivement, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, Youssef, puisque quand tu regardes le niveau de risque qu'il y a sur une crypto par rapport à d'autres investissements plus diversifiés, tu te rends compte effectivement que les facteurs de risque qui impactent le cours de ta crypto, c'est des facteurs externes qui sont difficiles à mesurer et finalement, c'est un peu plus risqué. On ne peut pas parler d'investissement bon père de famille quand on parle de crypto. Ouais. C'est plutôt quelque chose d'un peu exotique et c'est la raison pour laquelle généralement, on conseille que ça reste une proportion assez raisonnable, mesurée d'un portefeuille, tandis qu'on aurait plutôt tendance à conseiller à un premier investisseur en bourse d'aller sur des actifs diversifiés tels que des ETF qui vont apporter un très grande granularité et une exposition très diversifiée au marché boursier.
Justement, Youssef, il dit une chose intéressante, il disait j'ai compris que c'était des fonds qui permettaient de battre les indices.
Pas forcément. Alors effectivement, hein. Ce sont des fonds, oui, et là-dessus, tu as raison, puisqu'en fait, ce sont des paniers de titres, que ce soit des actions ou des obligations, très diversifiés. On retrouve en général des centaines, voire des milliers de valeurs dans un ETF. Oui. En revanche, leur objectif premier, c'est vraiment de te permettre de répliquer la performance de l'indice, donc d'accord, de t'offrir la performance de l'indice plutôt que d'essayer de le battre. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'un indice ? Un indice, ça va représenter un marché financier, donc par exemple le marché français. Mmh. On peut penser à l'indice MSCI France, mmh, qui te permet de prendre une exposition aux 61 premières sociétés françaises. Mmh. Et en achetant une part d'ETF, tu accèdes en une seule transaction à la performance de 61 entreprises, donc très diversifiées par nature et aussi accessibles sur des montants qui sont faibles, puisque tu peux accéder à un ETF à partir de 25 euros.
Bon, avec une limite, il faut le préciser, de 100 euros sur Boursorama, mais c'est toujours plus accessible qu'une action Hermès qui vaut plus de 2000 euros aujourd'hui, il faut le rappeler.
Donc effectivement, les ETF, une bonne façon de faire ses premiers pas en bourse, très démocratique aussi, puisque que tu sois un investisseur institutionnel qui investit 100 millions d'euros ou bien un jeune qui met 100 euros dans son PEA, c'est exactement les mêmes frais de gestion. Donc ça permet effectivement de rendre l'investissement accessible à tous.
Qu'est-ce que tu as aujourd'hui du coup en ETF, en portefeuille ?
En portefeuille, donc j'ai des fonds américains sur mon compte titre, donc plusieurs fonds américains. Sur le PEA, j'ai pas encore d'ETF.
Mais on peut peut-être, Charlotte, justement, conseiller, on voit qu'il a une très bonne base. Youssef, il a commencé, il est déjà diversifié. Sur la partie ETF, il y a eu un webinaire qui a été fait récemment avec iShares et Boursorama où on a approché un petit peu cette stratégie du cœur satellite. Comment ça pourrait s'illustrer dans ce que fait Youssef actuellement ?
Donc effectivement, il a déjà fait le premier pas, qui est le plus coûteux, c'est celui d'acheter un ETF. Donc en l'occurrence, tu as acheté le marché américain avec un ETF qui contient 500 titres, donc c'est déjà bien diversifié. Tu peux aussi envisager d'aller diversifier encore plus largement en achetant le monde. Mmh. C'est une stratégie d'ailleurs qui est adoptée par beaucoup d'investisseurs en Europe qui, on le disait, une bonne pratique, c'est d'investir régulièrement et qui chaque mois vont investir, dans le cas de l'Allemagne, entre 180 et 200 euros dans des stratégies très diversifiées mondiales. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, et si tu as un petit peu d'intérêt pour les différents thèmes de l'économie, la technologie, l'environnement ou même le domaine de la santé, en fait, tu peux aller, entre guillemets, investir sur ces secteurs de l'économie réelle à travers des ETF, puisqu'il existe des ETF sur différents secteurs, thèmes, qui vont pouvoir venir un peu compléter ton portefeuille. Et c'est l'approche cœur satellite dont on a parlé dans le webinaire. Le cœur étant, on va dire, la coque de ton bateau qui donne la direction, la trajectoire de performance sur le long terme.
Et ensuite... Ouais, elle est sympa, hein, je suis d'accord.
Tu peux être un petit peu plus tactique en ayant cherché certains vents porteurs, certains courants, et en étant à plus court terme investisseur tel ou tel secteur, et avec un petit peu plus d'arbitrage, de manière à venir un peu booster la performance de ton bateau, de ton voilier, pour reprendre...
Mettre le moteur, mettre le gros moteur pour avancer plus vite. Une dernière question très rapide pour finir, Youssef. Pas trop galère le premier passage d'ordre quand il faut... Parce que finalement, on peut avoir tout fait et sur ce dernier moment, se dire « Oh là, mais attends, comment on achète au final ?»
Ouais, c'est ça. Oui. C'est vrai que les premiers passages d'ordre sont un peu compliqués parce que...
Tu as des conseils peut-être à donner aux gens qui nous regardent, qui auraient
exemple ? Il faut quand même un petit peu de patience dans le sens où il faut s'apprivoiser un peu les termes techniques de passage d'ordre. Voilà, c'est... Sur les premiers passages, ça va être compliqué parce que bon, après le site est bien fait parce que Je sais qu'à chaque passage d'ordre, vous avez une petite icône avec un i, donc comme information. Il y a juste à cliquer dessus, il y a un petit laïus avec...
dire à quoi l'ordre correspond, en fait.
À quoi l'ordre correspond, pourquoi vous ne pouvez pas le passer, est-ce qu'il faut en acheter deux, est-ce qu'il faut en acheter un. Enfin, il y a plein de précisions qui permettent derrière de pouvoir passer l'ordre sans problème. Mais c'est vrai qu'au premier abord, c'est un peu...
technique, voilà,
c'est un peu technique.
Comment on surmonte ça, Charlotte ?
Non, c'est vrai, je pense qu'il y a un certain nombre d'obstacles à la première souscription.
Un peu de patience.
Il y a pas mal d'obstacles parfois à la première souscription, il ne faut pas se décourager. La première chose à faire, c'est choisir ce qu'on va mettre dans son enveloppe, que ce soit le compte-titre, l'assurance vie ou le PEA. Pour ça, tu peux en fait retrouver l'ISIN, qui est l'identifiant international de ton produit. Chaque produit en a un unique qui va te permettre en fait de choisir et de sélectionner ton produit. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir regarder si tu peux investir en montant ou en part. Donc, parfois, il y a des montants de souscription minimum, notamment sur Boursorama à partir de 100 euros sur les ETF. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et enfin, tu vas choisir le type d'ordre que tu vas utiliser. Par défaut, sur Boursorama, c'est les ordres à cours limité qui en fait offrent une bonne protection, tout simplement parce qu'ils vont te permettre d'acheter ton ETF et de déterminer toi-même à quel prix maximum tu veux l'acheter.
D'accord.
Ce qui veut dire qu'entre le moment où tu passes ton ordre et le moment où il est exécuté sur le marché, même s'il y a entre guillemets beaucoup de volatilité, que le prix remonte, eh bien tu n'achèteras pas au-dessus d'un certain prix que tu as déterminé toi-même.
D'accord.
Pendant la durée
de la validité de l'ordre.
De l'ordre, qui peut être d'une semaine, d'un mois. En fait, tu choisis toi-même.
Et ben voilà, des conseils, de la stratégie, des exemples concrets, et puis une discussion qui va sans doute se poursuivre hors champ après ce premier numéro de Et si c'était vous ? Merci beaucoup Youssef.
Merci Laurent.
Merci Charlotte.
Merci.
100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.